Dans le cadre de Carrefour des Nations, voici maintenant Carrefour du Monde avec votre animatrice, Christina Wredecka.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Galilée, de ce jour du 27 janvier 2024. C'est Christina Wredecka, votre animatrice, qui vous parle. Je suis en compagnie de Paula, Nicole et Ante. Je les demande de se nommer pour se faire connaître de nouveaux auditeurs et de nous parler d'un événement significatif qui s'est passé durant les mois écoulés depuis notre dernière rencontre. Paula, s'il te plaît.
Oui, bonjour. Moi, c'est Paula Lopez Tremblay, originaire de la Bolivie. Ça fait 54 ans que je suis à Québec. Puis, très contente de participer avec notre belle équipe et être ici. Un événement important, là, oui. Je pense que c'est évidemment toutes les fêtes de Noël.
Tout à fait.
Hein. Oui. C'est magique. Moi, c'est magique avec la famille, les petits-enfants, les enfants. C'est une espèce de partage puis d'amour. Ces moments sont magiques.
Oui.
Merci.
Merci, Paula. Nicole, s'il te plaît.
Bonjour, je suis Nicole. Donc, je suis haïtienne. Ça fait quelques temps, ça fait 23 ans que je vis maintenant à Belleville de Québec. Hein. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Donc, l'événement marquant du mois de janvier. Bon, en janvier, c'est comme après les fêtes. Je suis comme dans mon cocon. Mais il y a un film que j'ai été voir, L'anatomie d'une chute, qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2023. C'est un drame policier et juridique français que j'ai trouvé très, très bon. Ensuite, j'ai assisté à un mini-spectacle de jeunes au Cégep Garneau. C'était surtout pour mettre en valeur la communauté noire, les jeunes artistes de la communauté noire pour se faire connaître dans le milieu québécois. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant.
Merci, Nicole. Ante, s'il te plaît, c'est à ton
Merci.
Tour.
Bon, voilà, ça, oui, c'était moi passé. C'est riche à des belles événements. Évidemment, c'est Noël avec tous ces votés côté religieux, côté familial. On s'est rencontrés, partage des cadeaux et bon repas ensemble. Et ça, c'est donc au début, et après ça, ça finit avec la fête d'Épiphanie, n'est-ce pas?
Oui.
Par contre, j'aimerais mentionner quand même des événements que peut-être ils sont pas directement liés à notre émission, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Mais ça va avec le début, avec la fête de Noël et le début de l'année. C'est bénédiction de Orbi et Urbi de notre pape François. Je pense tout le monde connaît à peu près, je pense ça, c'est son bénédiction solennelle à la ville de Rome et au monde. Elle avait est prononcée deux fois par année pour Noël et à Noël et à Pâques. Cette année, ce père s'est arrêté. Dans son discours, dans son message, sur tous les conflits qui déchirent et notre planète. Il a énuméré vraiment tous les événements tristes en Afrique, en Asie, en Amérique aussi. Et, si vous avez vraiment possibilité de lire ça, c'est toujours, on peut le trouver dans la documentation de Radio Vatican.
Oui.
Je vous lis quand même un petit message que je pense ça vaut la peine.
S'il te plaît.
Ça vaut la peine d'être lu et retenu peut-être. C'était il dans son message, donc il a lancé un vibrant appel pour l'arrêt des guerres. il faut dire non à toutes les guerres. Car dire, je cite, oui. Le nom de Pape, notre Saint-Père, car dire oui au prince de la paix, ça, c'est dire non à la guerre. Pour cela, il faut commencer par dire non aux armes, car si l'homme dont le cœur est instable et blessé est en possession des instruments de mort, tôt ou tard, il l'utilisera. Et pour arrêter et stopper la production, il faut arrêter et stopper la production de ventes et la commerce des armes, mais également dénoncer les complots de mal. Que l'on en parle, qu'on en écrive, pour que l'on sache les intérêts et les gains que tirent les finances de guerre.
Oui.
Et un autre événement, je pense aussi, qui est lié avec le début de l'année, c'est le discours prononcé de Saint-Père le 8 janvier devant le corps diplomatique accrédité au Vatican. C'est chaque année, il donne un discours qui est très entendu dans tout le monde. Et c'est devant 180 diplomates accrédités près de 5 sièges. Saint-Père évoque les principaux conflits en cours dans le monde et les problèmes qui affectent le monde aujourd'hui, et il exhorte le monde diplomatique d'arriver à un cessez-le-feu sur tous les fronts. Derrière les guerres, ces guerres et ces crises, il y a en effet les victimes qui ne sont pas des dommages collatéraux, dit Saint-Père, mais les hommes et les femmes avec les noms et les prénoms qui perdent la vie. Ce sont les enfants qui restent orphelins et privés d'avenir. Ce sont les personnes qui souffrent de la faim et de la soif et du froid et qui restent mutilées à cause de la puissance des engins modernes. Si nous pouvons regarder chacun dans les yeux, l'appeler par son nom, évoquer son histoire personnelle, nous regarderions la guerre pour ce qu'elle est. Rien d'autre qu'une immense tragédie et un massacre inutile.
Tout à fait, oui.
Et ce sont les visages et pas les chiffres qu'on entend sur les reports.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça que je veux mentionner. Je pense que ça vaut la peine de souligner ces événements.
Quelle sagesse, oui. Merci, Ante. Oui. Alors, comme vous tous, j'aimerais parler de la fête de Noël, passée en compagnie de ma famille. Chaque année, je suis émerveillée par l'intensité de ces rencontres. Cette année, nous avons passé le dîner de Noël au restaurant dans la réserve de Huron à Wendake. À l'extérieur et à l'intérieur, les sapins brillaient pour souligner l'atmosphère de la fête. C'est la même chose quand il s'agit de foyers où les bûches de bois consumées par les flammes chauffaient les visiteurs, au point que notre petite fille a décidé de danser au rythme de la musique ambiante. La veille, le jour de réveillon, nous avons accueilli la famille de notre fille chez nous pour partager, selon une vieille tradition polonaise, un morceau de poitek, une sorte d'hostie non consacrée. Le geste qui souligne les liens avec l'Eucharistie, les moments culminants, l'apogée de notre religion. Le réveillon chez nous, c'est la messe de minuit. En Pologne, ça s'appelle pasterka, c'est-à-dire la messe des bergers. Et Avant, c'est aussi le repas spécial sans viande où les harengs marinés fumés règnent, aussi une soupe aux champignons séchés et le dessert avec les pavots. Parfois les nouilles aux pavots, mais cette année les gâteaux aux pavots que j'ai l'habitude d'offrir au temps de Noël à tous mes amis. Nous avons reçu aussi les cadeaux. Nos voisins nous ont apporté le sucre à la crème, à Toka, une confiture de camberge. J'ai reçu une boîte avec les gaufres croates et les biscuits faits selon la recette haïtienne. Je me demande ce qui a fait ça. C'était très
difficile à faire.
Notre fille a offert à mon mari une reproduction d'un triptyque de Jean-Paul Riopel, hommage à Rosa Luxembourg, que nous allons coller sur les murs de notre salon. Et pour moi, les cosmétiques me font du bien de tous les points de vue. On garde sous le sapin les cartes de Noël que nous avons reçues de la part de notre famille et nos amis en Pologne et d'ici. Et, par exemple, nous étions émus par une vidéo envoyée par la petite fille de notre ancienne voisine, je suis toujours en contact avec elle, où les vœux de Noël écrits sont projetés sur le ciel étoilé, sur le cœur aimant fait des étoiles, avec une phrase qui nous touche énormément, « Noël, c'est le bonheur d'être ensemble ». Je voulais ajouter aussi que sous la table de notre salle à manger trône encore un petit pain, mini, une sorte de sapin, mais c'est un peu différent, décoré avec les cônes. Et le comble de tout, écoutez, le téléphone de la part d'un ami de mon enfance en Pologne, qui m'a rappelé plusieurs souvenirs, les messes de minuit célébrées dans notre paroisse, les visites paroissiales de notre curé, les moments passés ensemble à la table de Noël. C'était vraiment quelque chose que je garde dans ma mémoire. Et voici notre sujet pour aujourd'hui, le bénévolat. Une mission, un passe-temps, l'apprentissage, la croissance personnelle. Avec le sous-titre, quelle sorte de bénévolat je fais ici à Québec? Quelles sont mes motivations pour exercer ce défi? Et j'ai déjà fait le bénévolat dans mon pays d'origine? On passe à la musique et après, on revient à notre conversation.
Quand on a reçu plus qu'il ne faut, quand on a des coupes pleine d'eau, de vin, quand on se réveille où il fait chaud au matin, quand on a de l'amour et du pain, c'est alors qu'il faut poser son regard ailleurs, ne jamais pleurer sur ses malheurs, tendre sa main, son âme et son cœur, et aller vers ceux qui ont faim de tout ce qu'on. Des peines et des fautes à expier, c'est vrai, il y a des rêves à oublier, des regrets, il y a ce qu'on voudrait changer, sans délai, il faut poser son regard ailleurs, à ce qui fait de l'ombre au bonheur, tendre sa main, son âme et son cœur, et aller vers ceux qui ont faim de tout ce qu'on a de trop dans nos mains. C'est juste là, au fond de soi, qu'on trouvera ce qui fait loin.
Nous poursuivons notre conversation sur les bénévolats qui nous exerçons ici à Québec. Paula, s'il te plaît.
Bon, avant de parler de ce que j'ai fait ici à Québec, oui. J'aimerais commencer par, tout le monde connaît le prophète Khalil Gibran, le petit livre, c'est tellement bien.
Oui.
Il dit quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un lui demande, vous savez comment c'est fait le livre, quelqu'un lui demande, parlez-nous de telle chose. Parlez-nous du don.
Oui.
Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement.
Oh, c'est parfait. Mm-hmm. Oui.
Alors, je voulais commencer avec ça parce que le bénévolat, il faut que ce soit ça.
Oui.
C'est don de soi,
oui, tout à fait.
Même si ça nous dérange. C'est surtout quand ça nous dérange.
Oui,
parce que quand c'est commode, quand c'est...
C'est difficile.
Ça me fait du bien à moi, faire le bénévolat.
Oui.
Il faut faire attention. Moi, je pense que ce don-là, et c'est comme ça que j'aimerais qu'on comprenne.
Mm-hmm.
À Québec, 80% des Québécois s'implique auprès d'un organisme de bienfaisance auprès des individus. 41% des bénévoles le font par intérêt ou par plaisir. 37% sont dans les secteurs de la culture, loisirs, sport, plein air.
Mm-hmm.
Intéressant. 268 millions d'heures en bénévolat au Québec.
Impressionnant.
Alors, c'est intéressant parce que, vous le savez, il y a plein d'organismes, d'ONG, d'organismes non gouvernementaux qui font... Moi, je pense que j'ai toujours vu que le Québec, c'est un peu comme les scouts.
Ah.
sont vraiment prêts à donner, là.
Oui,
c'est prêt à faire une bonne œuvre.
Oui.
Puis effectivement, il y en a beaucoup. On parle souvent, chaque année, on parle dans nos émissions de développement et paix. Que développement et paix envoie des bénévoles dans toute l'Amérique latine et certains pays de l'Afrique aussi. Mais ces sortes de bénévolat, c'est peut-être loin des pays. Mais ici, à Québec, il y a tellement d'organismes qui font du bénévolat, tellement l'entrée, la Moisson Québec, la Maison de Frédéric.
Oui.
Bon, c'est innombrable. On peut monter à énormément des gens qui font du bénévolat et de différentes façons.
Oui.
Et surtout en pensant ça, c'est ce qu'on va donner de notre temps pour quelque chose d'intéressant. Alors, c'est sûr que pour moi, le bénévolat, c'est une importance vitale. Qu'est-ce que c'est le bénévolat? C'est vraiment un geste, un travail qu'on pose sans être rémunéré. C'est
oui,
sûr que c'est important. C'est pas en étant rémunéré qu'on le fait. C'est le temps qu'on donne. C'est une bénévole s'engage selon ses goûts, ses disponibilités, ses aptitudes, les heures et le besoin de son milieu. Avant tout, c'est une histoire d'amour.
C'est
une histoire d'amour avec pour les gens et pour les autres. Là. C'est sûr que dans le bénévolat, on apprend beaucoup.
On apprend énormément.
Et c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est normal de le faire aussi selon ses goûts, puis parfois que ça fait du bien. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça augmente l'estime personnelle.
Oui, c'est vrai.
Ça augmente l'estime personnelle. Ça fait découvrir de nouveaux intérêts. Ça fait faire partie d'un groupe comme le nôtre.
Exactement.
C'est intéressant.
Exactement.
Enthousiaste, puis qu'on apprend beaucoup. Ça renforce l'estime de soi, améliore les aptitudes sociales et... c'est un exemple positif pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Je pense que, finalement, pour nous, les immigrants, c'est une façon de s'intégrer au pays.
De la société.
Alors, c'est comme ça que je le vois, le bénévolat. Je peux continuer à faire ce que j'ai fait, mais tout à l'heure, maintenant, je vais donner la place
dans la deuxième
à
partie.
Merci,
Paula. Merci. Nicole, c'est à ton tour.
Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec Paula. C'est à peu près la même chose que je vais dire. Parce que pour moi, le bénévolat, c'est surtout un engagement libre et volontaire du don de son temps, de son savoir, de ses habiletés gratuitement afin de combler le besoin du milieu dans lequel on évolue. Donc, pour moi, c'est un excellent moyen aussi de demeurer actif et d'utiliser ses talents, de faire des rencontres, de rendre service à la communauté tout en faisant une différence dans la vie des gens et en vivant aussi de nouvelles expériences. Donc, avant tout, comme Paula l'a dit, c'est une histoire d'amour pour soi et pour l'autre. Une histoire où on se fait du bien et aussi où on en fait du bien. Donc, ça, le bénévolat demande aussi qu'on aille beaucoup plus loin que soi-même. C'est un, d'aller au-delà de soi-même, sans rien attendre en retour. Donc, comme et pour la parole tantôt du Québec, moi je pense que le bénévolat, c'est comme ça fait partie intégrante de la culture québécoise parce que tellement en général ils sont généreux, ils sont toujours prêts à donner. Parce que quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand je venais d'arriver ici, j'étais à Trois-Rivières, je trouvais que les gens étaient un petit peu froids et distants. Et puis, je pense que cette année, peut-être l'année, c'est 2001, je suis arrivée en 2001, peut-être en 2002 ou 2003, il y a eu, comme toujours, et un cyclone en Haïti qui était assez dévastateur. Puis, en une fin de semaine, il y a un Haïtien qui vivait à Trois-Rivières qui a organisé quelque chose pour ramasser des dons. J'étais sidérée de voir comment les trifluviens, il y en a fait beaucoup. Moi qui les trouvais froids et distants au début, et puis ils étaient là à venir apporter des dons, la façon dont ils ont collaboré. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Absolument. J'ai dit, bon, il ne faut pas rester sur l'apparence.
Absolument.
Parce que parfois, ils apparaissent, enfin, certains Québécois apparaissent très froids, très distants, mais effectivement, ils ont un cœur d'or, c'est ça. Ils ont un cœur d'or. Donc, le bénévolat, c'est quelque chose vraiment qui est très fort. Ici.
Merci. Merci, Nicole. Ante, c'est à ton tour,
oui,
s'il
merci,
te plaît.
Oui, merci. Bon, ça s'ajoute aux pensées que Paula et toi, Nicole, vous avez dit. C'est ça. J'ai cherché aussi un peu à regarder les définitions de bénévolat. Donc, j'ai trouvé deux et une troisième, je vais vous lire à part. En effet, le bénévole s'engage selon ses goûts, ses aptitudes et sa disponibilité afin de combler les besoins du milieu sans aucune rémunération. Le bénévolat, c'est avant tout une histoire d'amour pour soi et pour les autres. Oui. Parce qu'il faut aussi s'aimer. Je pense qu'on ne peut pas aimer l'autre si on n'est pas, si on n'aime pas soi-même. Non, c'est vrai, c'est l'amour positif, n'est-ce pas? C'est pas égoïste.
Absolument.
Mais... Et l'autre qui me trouve aussi, il va à peu près dans le même sens. Le bénévolat est action de la bénévolat et l'action de la personne qui s'engage librement sur son temps personnel pour mener une action non rémunérée au bénéfice d'une personne ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif. Ça m'a fait penser, j'ai visité le musée des Augustines. C'est ceux qui sont fondatrices de l'hôtel de Québec, n'est-ce pas? J'ai vu là-bas, il y a un portrait de docteur Joseph Morin, qui était médecin de 1826 à 1826 et 1845 à l'Hôtel Dieu. Et au-dessus de le tableau qu'il présentait, c'était marqué « Il travaille sans aucune autre rémunération sauf la satisfaction de soulager la misère humaine. »
Voilà, voilà.
Je pense que c'est ça le but, sens de
la définition
bénévole.
Parfaite.
Il va vraiment, le but, c'est d'aider ses prochaines dans la misère. J'ai eu l'occasion de travailler, Christina, tu le connais bien, maison Michel Sarrazin. Alors j'ai ici une définition qui était mentionné par Abbé Nadeau, Gilles Nadeau, il te rappelle. Ça se dit comme ça. N'importe quel bénévolat, si on le fait avec qualité, doit améliorer la personne, le bénévole. Ce qui est particulier dans les soins palliatifs, c'est la fin de vie, la fin de la vie. Ça rentre plus profond en nous parce que c'est la fin, fin de la vie. Ça entre vraiment à l'intérieur. Je parle de ça parce que j'ai l'occasion, je peux dire même la chance de travailler à 19 ans comme bénévole
moi 15 ans
à Maison Sarrazin. Je ne dis pas ça pour me vanter vers loin
mais
ça,
c'est quelque
parce
chose.
Que j'ai dit surtout que je voulais juste arriver à cette phrase-là que je trouve aussi dans l'article d'Abbé Nadeau et que plusieurs bénévoles disaient toujours en faisant ce bénévolat en général et en particulier à Maison Sarrazin, je reçois plus que je donne. Et c'est vrai, c'est sûr, d'accord, c'est pas le côté matériel, mais un grand enrichissement
intérieur, spirituel, tout à
c'est
fait.
Ça. Mmh.
Tout à
psychologique
fait.
Et spirituel, oui.
Oui, 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 ok.
Parce que là, on a, non, on
okay,
a l'occasion
on
de parler en cas,
tout
ça.
À fait, tout à fait. Merci, Ante. Pas tellement longtemps, je pensais que seulement les personnes de certain âge à la retraite font le bénévolat. Mais non, les jeunes sont aussi engagés dans ce noble domaine. Mmh. Pendant Noël, nous avons reçu en visite notre ancienne coéquipière d'origine japonaise qui vit présentement à Montréal. Elle est venue avec sa fille qui travaille comme enseignante à l'école primaire dans un quartier où il y a beaucoup d'immigrants qui ont choisi le Canada, le Québec, la ville de Montréal comme leur deuxième patrie. Les enfants ne connaissent pas ni français ni anglais, alors le parcours s'annonce difficile. Ils sont admis dans les classes d'accueil. Un autre jeune ami a décidé de les aider. Elle consacre des après-midi par semaine pour jouer bénévolement avec eux, pour placoter, pour qu'ils apprivoisent plus facilement nouvel environnement. Je suis à Québec depuis 38 ans. Nos débuts étaient parfois difficiles, la recherche d'emploi, l'attestation des diplômes, l'apprentissage de la langue. Mmh. Mais on était accueillis au début par un fonctionnaire d'État, accompagné par un Polonais qui faisait partie de l'association des Polonais ici à Québec. Alors au début, mon bénévolat consistait à organiser les messes mensuelles célébrées par un prêtre de Montréal et parfois de Trois-Rivières à l'église Saint-Sacrement. Je me rappelle, la collecte était partagée entre la paroisse et l'association qui payait les voyages du prêtre, les goûters aussi servis à tout le monde qui, après la messe, restait ensemble. À notre recommandation, les prêtres visitaient les malades, incapable de se déplacer. Nous avons imprimé aussi un bulletin pour informer les intéressés des fonctionnements de l'association. Avec le temps, les membres de l'association, intégrés parfaitement à la société d'ici, se voyaient seulement à l'occasion de Noël de Pâques. Mais parfois, à l'occasion, comme d'un concert donné par les Polonais de la Pologne, comme un spectacle d'une troupe de théâtre en tournée en Amérique du Nord à l'occasion d'un festival théâtral international. Je me rappelle bien le spectacle en question dirigé par Christiane Lupa intitulé « Clairière » présenté au Grand Théâtre. Une des spectatrices se sentait offusquée par les mots « obscènes » prononcés par les comédiens. Elle a quitté la salle en criant « scandale ». La réaction très positive se faisait sentir à la présentation d'une pièce de théâtre, Yaseukas, la crèche en français, aussi Djadé d'Adam Mickiewicz, le plus grand poète d'époque romantique en français, les Aïels, qui raconte les contenus reliés à la fête des morts, tout à la paroisse Saint-Sacrement. Et imaginez-vous, une fois, nous avons monté à la salle Albert Rousseau, une pièce de Monteverdi, Orphée et Eurydice. Ah ouais. Évidemment, c'est les membres de la communauté polonaise qui jouaient en polonais. Alors, c'est un souvenir mémorable. On passe à la musique et après, on revient à notre conversation.
Être gai comme autrefois. Si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie
te mords chaque jour, si tu ne peux répondre aux coups qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le cœur des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'ensemble nous trouverons la voie. Si tu t'interroges des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand chose, mais peut-être qu'à mille nous saurons la trouver.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission Carrefour du Monde à l'antenne de Radio Galilée, 90,7 FM à Québec, 102,5 en Beauce et 106,7 au Lac-Saint-Jean. Nous poursuivons notre conversation sur les bénévolats qui nous exerçons ici à Québec. Paula, s'il te plaît, parle-nous encore de ton bénévolat que tu fais ici à Québec.
Bon, ici à Québec, depuis que je suis arrivée à Québec, il est bien longtemps, à Rimouski, j'ai fait, c'était intéressant parce que j'ai commencé à faire du bénévolat avec la session Rose. La session Rose, c'était à l'université. Rose, c'était au nom de, d'une évêque. Puis, il nous demandait simplement de donner certaines conférences. Puis, on avait commencé, mon époux et moi, comme ça. Puis, après, on a continué avec la Bédion, qui était aumônier de l'université. À faire les services préparation mariage. Autrefois, ça faisait ça à Québec.
Oui, oui.
Fait qu'on l'a fait pendant 3 ans, les services préparation mariage auprès des jeunes couples. Puis c'était effectivement très, très enrichissant, là, c'est sûr. Après, bon, c'était déjà ici à Québec, dans la ville même. Les ministères, c'était les services de l'immigration Canada, je pense, nous demandaient aux certains latino-américains d'aider à accueillir les immigrants qui arrivaient. Et pas seulement latino-américains, tous les immigrants. C'était intéressant parce que ça, c'était vraiment un travail bénévole intéressant. Parce qu'on apprenait beaucoup.
Absolument.
On les aidait, on les accompagnait à l'épicerie, faire les achats.
Exactement.
Surtout, ils ne savaient pas lire, alors on disait telle chose, c'est de la farine ou les riz ou telle chose, ou les cannes, qu'est-ce que tu vas acheter. On les accompagnait chez les médecins. En fait, c'était. Ça, on l'a fait un certain temps. Puis bon, après, quand j'ai travaillé, je pense que je faisais beaucoup de bénévolat parce que je travaillais beaucoup plus que oui. mes heures de travail. Mais après, quand j'ai commencé la retraite, ça fait depuis 15 ans que j'ai fait le bénévolat ici à la radio.
Oui, oui.
Et je peux dire qu'on apprend beaucoup.
Oh,
on apprend beaucoup, puis ça nous fait plaisir d'être là, vraiment, puis on donne de notre mieux. On donne ce qu'on peut donner, l'autre, c'est de notre mieux. Parce que, comme on disait tout à l'heure, une bénévolat, on apprend des choses, on va à certains goûts. Là, j'ai tombé comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas fait la radio jamais. Mais c'est intéressant, je trouve, puis on apprend beaucoup. Alors,
merci, merci Paula, oui. Nicole, c'est à ton tour, s'il te plaît.
Bon, moi, ça fait 2 ans que je suis retraitée. Donc, depuis lors, je me suis impliquée beaucoup plus dans le bénévolat ici à Québec. Donc, je me suis surtout impliquée auprès des immigrants, avec par l'intermédiaire du Centre Rire. Donc, j'ai participé à la francisation, à l'alphabétisation des immigrants qui ne parlaient vraiment pas le français du tout. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu des élèves qui étaient comme à l'école hôtelière dans un processus d'échange qui venaient du Maghreb, donc qui parlaient complètement arabe. Donc, c'était essayer de les faire comprendre leur cours en français. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Et puis, sur le côté spirituel, j'ai une amie justement qui distribuait la communion qui le fait encore, qui distribue la communion dans une résidence pour personnes âgées. Donc, au fur et à mesure, le nombre de résidents a augmenté, les personnes qui voulaient communier. Donc, elle m'a demandé son aide. Donc, à tous les jeudis, j'essaie de l'aider un petit peu dans la distribution de la communion aux personnes âgées dans une résidence. Ensuite, je suis aussi la sacristine du vendredi dans une église.
Oh.
J'ai trouvé ça spécial parce que je ne m'y attendais pas du tout quand le curé m'a demandé, il m'a dit, moi, qu'il me voyait comme sacristine. Donc, j'ai accepté. Je trouve ça très enrichissant. Bien que je trouve que je ne suis pas digne de l'être.
Je te comprends.
C'est ça. Donc, parfois, assez souvent, je participe dans les activités du Centre Rire, parce que justement, par exemple, la semaine des Noirs, donc ils organisent beaucoup d'activités. Parfois, je participe à l'accueil. Lors des différents spectacles, je suis à l'accueil.
Oui.
Donc, je trouve ça très intéressant.
C'est sûr. Merci Nicole. Antès, c'est à ton tour.
Merci.
Parle-nous de ton bénévolat ici.
Je peux commencer un peu plus loin encore, en partant de la Croatie, à ce moment-là, c'est la Yougoslavie. Je me rappelle que le père jésuite, que j'ai fréquenté, qui s'occupait beaucoup de moi, il m'a dit... parce qu'il savait que je pars pour la France, il dit, essaie de trouver une association de jeunes bénévoles, ça va te permettre de connaître le pays, les mentalités, parce que quand même, je venais de Croatie, France, c'est quand même de l'autre côté des Alpes, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu différent quand même.
Oui.
Donc, connaître ton milieu, essaie de t'impliquer dans une organisation de bénévoles, des jeunes. Et bon, c'est vrai, j'ai réussi, j'ai adhéré à un organisme des jeunes à la ville de Nancy, à l'est de France où j'étais. Je restais ce temps-là. Et, ça s'appelait Gay Logis. Logis joyeux, n'est-ce pas?
Ah, ok.
C'était un organisme où les jeunes donnaient le temps et la municipalité fournit le matériel pour réparer les appartements des personnes qui n'ont pas moyen de faire ça eux-mêmes. Donc, ça m'a vraiment enrichi beaucoup.
Tout à fait, j'ai appris,
bon, c'est pour ma langue, déjà, tout simplement apprendre un peu plus français. Et aussi connaître les jeunes et le milieu autour de moi.
Oui.
Donc, c'est ça, je travaillais là avant d'avoir mon visa d'immigrant pour Canada. Et en venant ici... J'ai aussi essayé de m'impliquer dans les différents comités, disons, là.
Oui.
Surtout quand on est déménagé à Cap-Rouge, il existait là-bas déjà service à la communauté de
l'hôtel de ville.
À ce moment-là, Cap-Rouge était ville à part.
Ah, c'était
service à la communauté de Cap-Rouge.
Ah, ok.
Là, c'était bon de faire une activité guignolée. Mmh. On était impliqué aussi pour collecte de la capitation pour l'église. Et aussi, c'était le temps de quand il y avait beaucoup d'immigrants de Vietnam. Et bon, là, la ville, nous autres, dans l'organisme là, service à la communauté de Cap Rouge, a parrainé une famille vietnamienne. Donc là aussi, il a fallu faire travailler dans l'organisation autour de ça. Et après, bon, avec le travail, quand même, c'est beau, les bénévolats, et on aime ça, on s'enrichit beaucoup, mais aussi, il faut avoir un peu le temps.
Oui, tout à fait.
Je vais peut-être continuer après qu'est-ce qu'on a maintenant encore à Cap Rouge.
Ok, oui. Alors, ça nous arrive encore à mon mari et moi-même donner des conseils aux nouveaux arrivants d'origine polonaise qui cherchent terre d'accueil. Pendant 15 ans, j'ai fait aussi les bénévolats à la maison Michel Sarrazin, comme il préposait aux soins. C'était le travail exigeant de tous les points de vue, côté physique. Heureusement, j'étais toujours en forme. Côté psychologique, j'étais supportée par les autres bénévoles. Aussi la patronne des bénévoles, à l'époque, Madame Françoise Giroux. Par l'aumônier de la maison, qui Ante mentionnait son nom, Gilles Nadeau, qui célébrait la messe au salon. J'étais toujours impressionnée par l'effet, la célébration de la messe au salon, où tout le monde était ensemble. Les malades dans leur lit, les bénévoles, le personnel, tout le monde. Les bénévolats à la maison Michel Sarrazin, c'était une leçon de vie pour moi. On aide les malades, on apprivoise la mort, on se relie d'amitié avec les autres bénévoles, les familles des malades, les personnes, le personnel. Là-bas, j'ai appris certaines notions médicales, la façon de soigner entre les guillemets des mourants. Dans certains moments, j'ai appris la maladie et la mort de mon frère en Pologne. Et le fait que j'étais auprès des malades en fin de la vie m'a aidé à vivre ce deuil. Et il y a dans mon entourage un homme, presque 90 ans maintenant, qui pendant plusieurs années a porté la communion aux malades dans les hôpitaux d'Ottawa. Sa présence était très appréciée. Il priait avec les malades, les patients. Il essayait à donner l'autre dimension à leur souffrance. Je suis toujours en contact avec ce monsieur. Je suis pleine d'admiration pour lui. On échange les vœux de Noël parce qu'il vit de Pâques aussi. Et il vit à Ottawa. L'autre chapitre de mon bénévolat, c'est les activités au sein de ma paroisse. Je faisais partie d'un comité paroissial. Je rencontrais les gens profondément croyants qui voulaient partager avec les autres la foi en Dieu, l'amour d'un prochain. Il m'arrivait de partager mes réflexions religieuses avec mes sœurs et frères en foi dans les cercles d'une messe dominicale. Alors, j'étais très fière, parler à tout le monde. Dernièrement, je lisais les prières en hommage d'un homme d'origine polonaise décédé à l'âge vulnérable de presque 100 ans, les membres de notre paroisse depuis toujours. On passe à la musique et après, on revient à notre conversation.
Pour faire briller la lune, on donne, sans compter les fois, on donne. D'améliorer ton sort avec persévérance, ça vaut bien plus que l'or. Pour faire briller la lune, on donne sans compter les fois. Yeah.
l'égoïsme et la conscience en ont causé du tort. La peur et l'ignorance étouffent trop de remords. Pour faire briller la lune, on donne, sans compter les fois, on donne, délivrant la misère de l'homme qui depuis des millénaires s'écroule au soleil. Pas la chance d'améliorer ton sort. Je veux perdre la méfiance, toujours t'aimer plus fort.
Alors, Paula, peux-tu nous parler encore de ton bénévolat à Radio Galilée?
Bon, comme je disais tout à l'heure, oui. Là, ça fait 15 ans que j'ai fait l'émission de Por los Caminos de Dios.
Oh, c'est ça.
J'ai essayé à écouter, mais non, ça me dépasse.
Puis, comme je dis, là, c'est un apprentissage pour moi. C'est agréable.
Oui.
C'est agréable, l'effet, parce que on apprend des autres, de l'équipe, la même chose qu'ici avec nous autres. Là, c'est agréable, l'effet, on apprend, puis on est obligé de nous ressourcer.
Tout
alors,
fait.
Je veux dire que c'est un bénévolat un peu égoïste, parce qu'elle nous permet à nous autres de nous ressourcer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé du prophète, là,
oui.
C'est qu'en même temps, on puisse, dans l'intérieur de nous, en même temps, on peut donner.
Oui.
Ensuite, ça m'arrive de faire bénévolement quelques consultations parfois, là, mais ça dépend du temps et de l'intensité.
Oui,
ça m'arrive de faire sûrement ça. Ensuite, bon, étant jeune dans mon pays, non, je ne me souviens pas d'avoir fait peut-être aider les gens sporadiquement.
Oui.
Mais quand on est aux études, j'étais dans une école de religieuse, c'était les études, l'université, on pense, peut-être comme j'ai dit, sporadiquement, quand c'est long, on va faire ça. Je le sais, par exemple, la Croix-Rouge en Bolivie en fait beaucoup. Et ma mère était présidente de la Croix-Rouge.
Oui.
Et je sais qu'elle et ses amis se réunissaient comme, mettons, tous les lundis après-midi. Il y avait une manufacture qui donnait les tissus, puis elle, il cousait des vêtements pour les enfants d'une orphelinat. Alors, ça, j'ai vu, c'est du bénévolat. Là-bas, ils l'appelaient pas nécessairement bénévolat.
Oui.
C'était comme une tâche comme d'autres.
Oui, tout à
puis,
fait.
Puis aussi, les dons des sang, la Croix-Rouge, c'est une façon aussi de bénévolement. Là.
Oui.
Mais comme je dis, je le sais que ma mère, pendant des années, a œuvré. Puis même, en certaines révolutions, est sortie pour prendre les blessés et les mettre à la camionnette de la Croix-Rouge.
Oui.
Alors, ça existe, les bénévolats comme ça, mais on ne parlait pas de bénévolat comme tel, c'était, il fallait le faire, mettons.
Tout à fait.
C'était
ça, spécial. Oui, merci Paula. Oui. Nicole? Oui.
Bon, moi, très jeune à l'école, j'étais chez les religieuses, bon, on ne parlait pas vraiment de bénévolat. Mais par contre, beaucoup plus vieille, quand je dis beaucoup plus vieille, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec ma sœur qui est décédée dans le tremblement de terre de Port-au-Prince en 2010. Elle était pédiatre. Donc, elle avait une clinique où elle recevait gratuitement les enfants souffrant de malnutrition. Donc, moi, en tant que pharmacien, je gérais la pharmacie, une petite pharmacie, je faisais le ménage. Et puis, en même temps, j'exécutais les prescriptions des médicaments et parfois, elle avait la distribution des repas sur certaines occasions. Donc, je l'aidais aussi de la distribution des repas. Donc, c'était ça, mon bénévolat, quand j'étais plus en Haïti.
Merci. Merci, Nicole. Ante, s'il te plaît, alors.
Merci, OK. J'aimerais vous mentionner, bénévolat, que j'étais obligé d'arrêter parce qu'il n'y avait plus de temps pour ça, avec toutes sortes d'obligations familiales. Mais c'est quand même, j'étais assez actif là-dedans. Durant plusieurs années, c'est Jumelage Saint-Félix. C'est c'est une association, si vous voulez, c'est un organisme qui s'occupe de, qui est jumelé, c'est pour ça que ça s'appelle Jumelage Saint-Félix, d'une paroisse au sud-ouest de Honduras, San Marcos de Colón. C'est Grégoire Messie Bissonnette qui a commencé ça avec l'abbé Grolot, Joachim Grolot, qui était curé à San Marcos. Et bon, l'idée c'était de aider financièrement autant qu'on peut, c'est sûr, mais c'est surtout pour les aider de s'organiser eux-mêmes. La population sur place. Oui. Et c'était l'idée de l'abbé Grolot. Il était plusieurs années là-bas. Il était considéré vraiment comme bienfaiteur de cette petite ville, San Marcos. Et ça, donc, j'étais actif dans cette organisation-là, ça se résumait surtout à essayer d'organiser les différents événements, et ramasser les fonds pour aider les gens à San Marcos, à Honduras. Oui. J'aimais beaucoup ça et ça nous a mis ce jumelage. Donc, chaque année, il y a une messe qui est dite en espagnol à Cap-Rouge et à Saint-Félix de Cap-Rouge et en même temps à San Marcos de Colón.
Le curé envoie
toujours un message, aussi bien que notre curé de Saint-Félix envoie un message à San Marcos. L'idée, comme je dis, c'était surtout les aider à organiser et promouvoir l'activité de il y avait différents projets qu'on a, notre organisme soutenait. C'était vraiment pour, avec l'idée que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Assez récemment, on a aidé à l'achat de vêtements pour le sport, pour qu'il y ait une équipe de football organisée. Parce que les nouvelles qu'on avait là-bas, d'ailleurs, malheureusement, on connaît bien tout ce problème de violence. On parle d'Amérique centrale, mais malheureusement, il y a tellement partout. L'idée, c'est que les jeunes soient occupés avec les choses positives. À ce moment-là, pense moins aux bêtises et à la violence.
Tout à fait.
Tout ça s'enclenche après. Donc, c'est un des aspects aussi que ça... c'est pas excellé. Voilà, c'est ça.
Merci.
Il y a encore d'autres choses à parler, mais c'est pour le salut.
Merci. Oui. Quant à moi, je dois avouer que le bénévolat, c'était l'activité inconnue en Pologne dans les temps de ma jeunesse. J'étais enseignante au lycée, je travaillais 5 jours par semaine et les week-ends étaient consacrés entièrement à ma famille. Mais, à part des cours donnés aux élèves, j'étais comme obligée de rencontrer les parents de mes élèves une fois par mois, aller au théâtre, au musée, aux excursions. Je dois avouer que c'est toujours avec plaisir. J'ai assisté avec mes élèves à toutes les fêtes nationales et aussi les manifestations au soutien du régime détesté par tout le monde. C'était difficile, Mais nous étions obligés. Le directeur de l'école nous disait « Aujourd'hui ou demain, vous allez manifester dans la rue pour soutenir notre gouvernement ou notre, je ne sais pas, dirigeant. » Alors, tout le monde était comme obligé d'y aller. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Okay. Alors, j'étais payée. Oui, c'est ça. Et une cellule des partis communistes était organisée dans chaque établissement scolaire et le chef de cette cellule exigeait notre présence à certaines réunions. Vous, imaginez-vous, là, les partis communistes avaient une cellule chez nous et une partie de l'enseignant, c'est-à-dire étaient les membres de cette partie, mais les autres étaient comme obligés à aller à réunion pour écouter, hein? C'est ça. Alors, c'était difficile.
Mais c'était une façon d'adoctriner.
Évidemment.
Oui, c'est bon, adoctriner.
Mais c'est pas évident. C'est-à-dire, quand tu es forcé de faire quelque chose contre
c'est
ton
ça,
gré,
ça.
Ça ne marche pas. Alors, c'est la contrainte évidente. Mais la plupart des temps, nous étions, comme je disais, forcés à accepter cette. Et j'ai le bonheur faire bénévolement la partie de la programmation de Radio Galilée avec notre émission Carrefour du Monde depuis 2003. Jadis, en collaboration avec Margherita Brunelli, Tran Lam, Hiroko Sugisawa, Hortensia Vallée, et maintenant, voilà Paula Tremblay, Nicole Benoît et Ante Stipanisis. Parfois, les anciens nous écoutent. Ils m'appellent pour partager leurs réflexions, pour se réjouir que notre émission se poursuit, parce que la spiritualité d'un humain est indispensable à sa dignité. Et j'ai, pour chaque émission, je lis les œuvres, c'est-à-dire avant d'aller à notre émission, je lis les textes qui parlent de notre sujet. Je médite, je parle à mes amis qui nous écoutent en disant « Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que ce sera raisonnable ? Est-ce que vous, les auditeurs vont aimer ça ?» Pour clore notre émission, j'aimerais vous lire un beau poème de Jules Bollac, prière du matin. Seigneur, une autre journée commence. Je vais d'abord te dire merci pour la bonne nuit que j'ai passée. Je me sens reposé et prêt à entreprendre mon travail. Je te présente toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Aide-moi à être pour elles un signe de ton amour, que je sois accueillant, écoutant, aidant, que je te reconnaisse en elles, qu'elles m'apportent ta paix, ta joie, que nous grandissions un peu plus les uns et les autres aujourd'hui. Je te présente également tous mes travaux, tous mes projets pour aujourd'hui, que je les accomplisse dans la simplicité et la vérité, et qu'ils contribuent au bien-être de tous. C'est ma petite part à ton grand projet d'amour sur nous tous. Seigneur, reste avec nous tout au long du jour. Amen.
Mmh.
Alors, c'est la fin de notre émission. Merci Paula, merci Nicole, merci Ante. J'aimerais dire merci à Bertolt Bernier, notre technicien, qui a fait aussi le choix musical très apprécié par nous tous. Bonne année.
Bonne année, 2004. C'est ça.
Merci.